Ya, ¿un imán? ¿Aló? Dites-vous, j'ai pas. Attendez, je vais faire plus fort parce que j'en ai. Allez-y. Ah, on va regarder si on est d'accord avec vous. Bien, alors, où dites-vous que nous en sommes? Un instant, je ne vois pas où vous êtes.
Presque fini game.
Bien, d'accord.
Ah bon, on a, je crois qu'on n'avait pas fini la fin avec le.
De
Réou, Tanaï, Réka. Je sais pas.
Bon, on va reprendre la dalette parce que.
La
dalette?
Oui.
Bien, on prend en dalette, c'est-à-dire. Oui, à Guilherich, Shmecha. Oui. Donc c'est le page 180 dans le français, le numéro 4. Donc Vaïchal Yaakov a interrogé l'ange. Vayomer Agidana Shmecha. Dis-moi s'il te plaît. Ton nom. Rav Amar Beshem Rabbi Yosef Bar Dustae, Katuv Echad Omer, Mone Mispar La Kochavim, etc. Tchulam est le nom de tous, Shemot Yikra. Katuv Echad Omer, Hamotzi Bemispar Tzvaam, Lchulam Beshem Yikra. Et la Melamed, Shiesh Sham Shinui. L'okshem shenikra achshav, kachu nikra l'achazman. Shenemar, vayomer lo, malach Hashem, lama ze tishal lishmi, vuhu peni. Eno yodea, eze shem ani mitchalef. Rab a dit au nom de Rabbi Yossi, Bar Dustae, puis d'un certain, il y a un pasouk dans Télim, qui dit que Hachem compte le nombre des étoiles et il donne à chacune des étoiles un nom. Et d'un autre côté, c'est marqué dans le Navi cette fois-ci, Amotsi bemispar tzvaam, il fait sortir selon leur nombre, c'est l'armée des étoiles, donc le Khulam Beshem Ikra, et il les appelle toutes par leur nom. Alors semble-t-il ça pose un problème, semble-t-il une contradiction, on voit laquelle. Et la Melamed, ça vient enseigner que Yesh Sham Shinui, qu'il y a là-bas des changements. Lo Kashem Shenikra Arshav, le nom de, par lequel il est nommé aujourd'hui, enfin maintenant, ce n'est pas le nom par lequel il sera nommé dans le futur. Alors l'ange, à la demande de Yaakov, lui a répondu « Lamazet ishal lishmi ?» Pourquoi est-ce que tu m'interroges pour connaître mon nom ? Ou Peli ? Peli, ça veut dire Pelé, c'est ce qui est extraordinaire. C'est-à-dire, Eno yodea eze shem animitralef. Ici, chez nous, c'est pas marqué Eni yodea. Chez nous, c'est marqué Eno yodea. Il ne sait pas quel nom, enfin, quel sera le nom, quel nom je changerai en quelque sorte. En quel nom je serai changé? Dans la traduction, ils ont traduit comme si c'était marqué Eni Yoda, je ne sais pas. Chez nous, la version c'est Eno Yoda, il ne sait pas. Mais après, c'est marqué Ani Mitralef, donc il y a un problème, quoi. Je ne connais pas son nom. Bon, alors après que l'ange lui ait demandé son nom, lui aussi il demande son nom à l'ange. Raconte-moi ton nom. C'est intéressant de... L'ange, quand il a demandé son nom à Yaakov, il lui a demandé Mashmecha, quel est ton nom? Il s'est adressé à lui. Donc ici, on dit Yaakov l'a interrogé et il lui a dit dis-moi, raconte-moi ton nom. La formule est un peu plus longue comme ça. Enfin, il interroge et il lui dit raconte-moi ton nom, littéralement. La Haggadah, Hagid, il lui demande. Agida na, na, ça c'est s'il te plaît, ça c'est rien, ça c'est s'il te plaît, ça, c'est les. Alors, quel est le problème ici? On a ce Rav, il a l'air de... Rav ou Révi, selon les versions, il a l'air de dire qu'il y a un problème, c'est-à-dire qu'il y a un problème de chinouille. Il y a un problème de changement. Mais où est-ce qu'on voit le changement dans le texte? Bon, on a un pasouk d'un Tehilim qui dit « Monem mispar la kohavim » Le Khulom Shemot Ikra. Il donne des noms à chacune des étoiles. Et puis l'autre verset qui est dans le Navi, il dit Hamotsi bemispar tzvaam, le cholam beshem ikra. Il nomme chacune par son nom. On a l'impression que du deuxième verset, elles ont des noms. Les étoiles ont des noms. Et d'un autre côté, du premier verset, on a l'impression que il leur donne des noms. Il les nomme. Comme si elles n'ont pas de nom, elles ont le nom qu'il leur donne. Donc il y a un nom, mais ce nom est susceptible d'être changé. Il va leur donner, quand il va les compter, il va leur donner un autre nom.
Ce sont pas des malarchines.
Pardon ?
Ce sont des astres.
Oui.
Pourquoi d'un côté on dit, on peut comprendre le malar, il va changer de nom quand il va changer de mission.
Alors, les étoiles aussi, semble-t-il. C'est-à-dire que un nom, c'est... La notion de nom est une notion évolutive. De façon générale. On a l'impression qu'il en fait une règle générale. C'est un nom, un malar, une étoile. Enfin bon, quand on dit les étoiles, c'est les Bnei Israël, ou bien les étoiles, c'est les anges. Tout dans le monde prend des noms différents. Le nom n'est pas une chose définitive. D'autres termes, Hachem peut changer le nom de quelqu'un ou de quelque chose. Et si le nom il indique ce qu'est la chose, alors la chose, elle, si elle change de nom, ça veut dire qu'elle change de fonction, par exemple, qu'elle change de rôle donc dans le monde. Donc l'idée, c'est que en tout cas dans le monde d'en haut, les hommes, eux, ils se donnent des noms. Mais justement, Hachem change les noms des hommes aussi. Il a changé celui d'Abraham, il change celui de Yaakov. Mais en même temps, il y en a qui ne changent pas de nom. Yitzhak, lui, ne change pas de nom. Et dans les malachim, justement, il y a des malachim qui changent de nom. Il y a des malachim qui ne changent pas de nom. Il y a des... En d'autres termes, quand on dit que les malachim, ils font jamais... Un malach, c'est une fonction. C'est-à-dire, son existence, c'est la parole divine. Donc, quand il est porteur de la parole divine qui dit quelque chose dans ce domaine-là, ben, il porte ce nom-là. Quand il est porteur d'une parole divine qui concerne la lumière... Ben, il a un nom qui tourne autour de la lumière. Quand il est porteur d'une parole divine qui concerne l'eau, il a un nom qui tourne autour de l'eau. Mais d'un autre côté, il y a des anges, des malachim, qui eux sont des constantes. Gabriel, Michael, ça c'est des... Raphaël, c'est des noms divins, des noms de malachim qui ont l'air stables. C'est la même chose. Yitzhak Avinu, il est stable. Avraham et Yaakov, ils bougent. Mais même Avraham et Yaakov, ils ne bougent pas de la même manière. Avraham, il bouge et il change définitivement, c'est-à-dire il avait une certaine fonction, et puis à un certain moment, il change complètement, et du coup, il a un nouveau nom qui, lui, sera stable. Et puis après, il y a Yaakov qui, lui, a tout de suite des bons noms, c'est-à-dire il n'y a pas de nom idolâtre, qui viendrait de l'idolâtrie, comme Avraham, quand il a été nommé Avraham, je ne sais pas, parce qu'il a été nommé par Terach comme ça, donc c'était son nom d'enfant idolâtre peut-être. Et il a fallu le changer pour qu'il devienne dans son rôle de Av du clan Israël. Mais Yaakov lui-même, il a un autre nom et son nom lui va être sans arrêt, il a deux noms en fait, il y a des noms qui vont changer. Et lui il dit, je ne sais pas dans quel nom... Tu me demandes mon nom, mais mon nom est Pélé. Alors, ça, il faudra qu'on réfléchisse. Pourquoi ça s'appelle Pélé? Dire qu'on a un nom qui change, ça veut dire... Pélé, ça veut dire extraordinaire, mais on peut aussi dire que c'est quelque chose d'un peu, presque un peu magique, c'est-à-dire, si tu le regardes de cette manière-là, ben, on a l'impression que c'est comme ça, tu le regardes une espèce de kaléidoscope ou un truc comme ça, selon la façon dont tu le regardes, il change. Oui, sauf que il semble que Yaakov et Israël, ce soient deux noms qui dépendent non pas d'un rôle d'Israël, mais de la conduite d'Israël. Peut-être c'est la même chose. Peut-être que Israël, quand il se conduit d'une certaine manière, le clan Israël ou même Yaakov Avinu, dans certaines circonstances, il porte son nom d'Israël, dans d'autres, il porte son nom de Yaakov. Et on a vu que, éventuellement, les noms, il y en a un qui était Tafel, un qui était Icar, et il y a des discussions pour savoir quel est le nom essentiel, quel est le nom secondaire. Est-ce que ça a un sens de parler d'un nom secondaire, etc. Mais, donc, vous avez des noms qui. Les noms de Yaakov et d'Israël. Ça a l'air d'être des noms qui dépendent de la conduite d'Israël, mais on peut peut-être dire que la conduite d'Israël, elle est révélatrice de la réceptivité d'Israël. Et donc, quand je suis réceptif à quelque chose, alors Hachem me donne un rôle qui est fonction de ma réceptivité. Si je suis capable, je suis réceptif, j'entends ça. Alors bon, je te donne ce rôle, donc. Ce nom-là. Donc le nom reflète la réceptivité, donc aussi, puisque en fonction de ce que nous sommes, Hachem s'adresse à nous de cette manière-là, donc ce serait révélateur de ce que.
Une compétence.
Oui, c'est-à-dire à ce moment-là, voilà ce que tu es capable de faire. Donc ce ne serait pas contradictoire. Mais là, ce qu'il a l'air de dire, c'est qu'effectivement, dans les corps célestes, il y a la même chose, quoi. Les étoiles aussi, elles ont. Alors, qu'est-ce que ça veut dire qu'une étoile. Ce qu'on pourrait dire, c'est que certaines fois, ce qui peut être intéressant dans l'étoile, c'est. Aujourd'hui, je veux dire, dans notre langage, on peut dire que c'est son rôle de rayonnement, ou des fois c'est son rôle de gravitation. Peut-être qu'elle a des rôles différents. C'est surtout en même temps, mais peut-être que l'accent il serait mis là-dessus. Ce qui est important, c'est ici, c'est sa masse ou sa situation. Et là, c'est sa capacité de rayonner ou d'attirer tel ou tel autre corps.
Pour l'homme, vous parlez donc de réactivité. Est-ce que c'est une réactivité vis-à-vis de. C'est lié à la vie humaine ou une réactivité, un intérêt
Pour les hommes ou pour les étoiles ?
Non, pour les hommes, pour les fonctions de la réactivité, le rôle qui est donné à l'homme.
Oui, le rôle qui est donné à l'homme dépend probablement de sa préparation, si vous voulez, de ça.
Est-ce que c'est sa réactivité ou sa préparation ou sa motivation vis-à-vis de Hachem ou d'une autre activité et le fait d'être réactif, d'être intéressé, d'être.
Non, mais probablement que c'est toujours par rapport à Hachem, c'est toujours par rapport à son rôle dans le monde. Si je m'intéresse à quelque chose, même si je ne vois pas, ça veut dire que je m'intéresse à quelque chose qui est dans le monde, qui est dans le monde d'Hachem, donc quelque part je valorise telle et telle chose dans le monde d'Hachem plutôt que telle et telle autre. Donc c'est toujours indirectement par rapport à Hachem.
La biologie, la médecine, la géographie.
Oui, pareil. Oui. Je m'intéresse à la perfection divine, la façon dont Hachem se montre dans, dans la nature, que ce soit dans la géographie, ou que ce soit dans l'histoire, ou dans...
Dans la
parasha
Shavua, l'étoile Ra.
Pardon, le?
Dans la parasha Shavua, il y a un rachi sur l'étoile Ra.
Oui, Ra. Oui, oui.
Donc on voit bien qu'on a besoin d'intéresser parce qu'il y a une dimension fonctionnelle, le nombre est fonctionnel en fonction de la fonction qu'Hachem assigne à tel astre par rapport à notre destin.
Oui, d'ailleurs là-bas, dans cette... justement, ce qui s'est passé, c'est qu'Hachem a changé.
Physique,
a changé.
Physique.
Hachem a changé justement cette étoile, Ra'a, la fameuse étoile Ra'a dont Paro a dit, etc. Il a changé, c'était Dame Ariga, c'était du sang de meurtre et de mort, quoi, si vous voulez, et il l'a changé en un sang de Dame Mila. Rashi rapporte, Dame Mila, ça correspond à la Mila que Yoshua fera pour les Bnei Israël quand ils vont entrer en Eretz Israël. Donc là, il n'a même pas changé son nom, en fait. Il a gardé son... il a gardé son nom, mais il lui a changé la fonction. Comment est-ce qu'elle peut garder ce nom, ça je ne sais pas. Ça veut dire, est-ce qu'Hachem lui a donné un autre nom, mais on ne le sait pas, c'est-à-dire... Là, en l'occurrence, il n'a pas changé son nom, mais il a changé sa fonction. Mais là, justement, il a changé la fonction de c'est toujours une étoile qui représente le sang, si vous voulez. Simplement, c'est un sang de Mila et au lieu du sang de la Riga, du sang de la mort. Et en fait, on peut dire, d'après ce que Rashi dit, que Hachem a, en quelque sorte, changé le sens du sang que représente cette étoile, parce que ça faisait un cri de l'Hachem, c'est ce que Moshe Rabbeinu a dit. C'est pas, vous savez, le Rashi dit que, comme Paro a dit à Moshe, mais qu'est-ce que tu veux? Premièrement, vous êtes en train de me raconter des salades parce que tu me dis que vous partez pour 3 jours et en plus, et maintenant vous allez partir avec tous vos troupeaux, avec tout le monde, etc. C'est pas vrai.
Les enfants?
Oui, enfants, oui, même les troupeaux, tout, prenez tout. Donc on part pas pour 3 jours. Avec tout. Et d'autre part, il y a une. Et Rashi rapporte, ça c'est le Pshad, mais après il dit, mais il y a un Midrash qui parle justement de cette étoile qui s'appelle Ra'a. En quelque sorte, nous, dans mon langage d'habitude, je veux dire par là que Paro lui dit à. Il dit à Moshe Rabbeinu, mais tu vois bien, le thème astral de Bnei Israël, c'est la mort. Vous n'avez pas de futur. Donc qu'est-ce que tu me racontes? Tu vas sortir dans le désert, etc. Si vous sortez, vous allez sortir d'Égypte, c'est-à-dire aller dans le désert, vous allez y crever. Ok, alors Moshe Rabbeinu a passé outre, effectivement, mais seulement quand Hachem a dit à Moshe Rabbeinu à la suite du Vaudor, lorsqu'il lui a dit, laisse-moi, je vais détruire les Bnei Israël, alors du coup Moshe Rabbeinu a dit, ah oui, c'est très bien, si tu détruis les Bnei Israël, les Égyptiens diront, ben, c'est bien ce qu'on avait dit, on avait dit que Hachem vous sort, etc., pour vous faire mourir dans le désert. Et du coup, Hachem a changé le sens de cette étoile. C'est toujours une étoile qui indique, ou une planète qui indique du sang, mais on a changé ce sang qui était un sang de mort en un sang de vie qui est le sang de la Mila. Aïe, ils sont dans le désert. On est dans le désert puisqu'on est, on est après le Vaudor. Ils sont dans le désert et on ne fait pas la Mila dans le désert. Alors, Rashi dit, ça fait référence à la Mila que Yoshua leur fera faire quand ils vont entrer en Eretz Israël. Parce qu'on avait vu dans la Gemara par ailleurs, certains ont vu dans la Gemara par ailleurs que les Bnei Israël, ils ont fait la Mila pour sortir d'Égypte, ça, tout le monde sait. Mais ensuite, ils ne pouvaient pas faire la Mila dans le désert parce que les conditions atmosphériques ne s'y prêtaient pas. Il y avait un risque que ça... qu'ils avaient besoin disons d'UV plus d'UV, il n'y avait pas assez d'UV parce qu'il n'y avait pas le soleil, parce qu'en fait quand ils étaient dans leur bulle là, le soleil ne passait pas, il n'était pas éclairé par le soleil, mais du coup ils n'avaient pas non plus les UV du soleil, Et donc, semble-t-il, pour la guérison d'une mila, on a besoin du véo. Moi, j'ai pensé que c'était des
nuées. Vous voulez dire derrière cette nuée,
quand ils étaient entourés par les Anané Kavod, oui, dans les Anané Kavod, dans cette bulle, eh bien, ces Anané Kavod, ils ne laissaient pas passer la lumière du soleil. Donc, ils étaient éclairés par artificiellement, quoi. Mm. C'était de l'halogène, etc. En tout cas, ils n'étaient pas éclairés naturellement par le soleil. Mais d'un autre côté, il y a les bienfaits du soleil qui ne passaient pas non plus. Et donc, puisque c'était dangereux donc, de faire la mila, ils ne l'ont pas faite. Ils ne l'ont pas faite jusqu'au moment où ils sont arrivés en Eretz Israël. En Eretz Israël, de nouveau, ils sont sortis de la bulle à ce moment-là. Donc, ils étaient de nouveau exposés au soleil. Ils pouvaient faire la mila. Donc, cette mila. Donc, il y avait dans le désert des gens qui avaient fait la mila. C'est-à-dire les anciens, ceux qui sont sortis d'Égypte, et puis les gens qui naissaient, au fur et à mesure, ceux-là, on ne leur faisait pas la mila, ils étaient dans le désert, et comme la génération de ceux qui sont sortis d'Égypte, ils sont tous morts, au bout d'un moment, quand on arrivait en Eretz Israël, à part Yoshua, Caleb, etc., personne n'avait la mila. Donc Yoshua leur a fait faire la mila à ce moment-là. Et donc il y a à ce moment-là beaucoup de sang, le sang de la mila. Et ce sang de la Mila, c'est le sang qui est attesté, enfin qui était annoncé par cette fameuse planète. Seulement, au moment où Paro parle, il a raison, Paro. Mm-hmm. C'est-à-dire, il a raison, comme ont raison les astrologues chaldéens qui disent à Abraham que il n'a pas de futur. Et c'est ce qu'Hachem lui dit, oui, tu as raison. Ils ont raison. Toi, Abraham, tu n'as pas de futur. Abraham n'a pas de futur. Abraham! Avec la Mila, c'est une ouverture, et avec le nouveau nom qui, dont la valeur, avec le Hei, le Hei, donc, ce qu'on représente la lettre Hei, et le fait que grâce à cette lettre Hei, la valeur numérique du nom d'Abraham, c'est 248, c'est-à-dire c'est la valeur de tous les membres du corps, et de toutes les mitzvot assez. D'accord? Donc, grâce à ça, Abraham, il a un futur.
Dans les sujets.
Mm-hmm. Parce que lui, il ne voulait pas la faire parce qu'il pensait qu'en chemin, il ne pouvait pas la faire. Mais quand il était... Lui, il n'était pas sous les Anané Kavod.
Oui.
Mais quand il est arrivé à l'auberge, il aurait dû faire, séance tenante, faire la mila à son fils.
D'accord, mais... Comment vous pouvez expliquer que sous les Anané Kavod, justement, on ne puisse pas faire la mila?
C'est possible que... C'est la suite du galout, quoi. C'est la fin du galout. Sortir du galout, ça impliquait de. Il fallait vivre dans la bulle. Alors il y a des choses qu'on ne peut pas faire quand on vit dans une bulle. Aujourd'hui aussi, un enfant qui est sauvé, enfin quelqu'un qui est traité qui est dans une bulle, qui est en aplasie, etc. Oui. Ben voilà, il est dans sa bulle et il y a des tas de choses qu'il ne peut pas faire.
C'est une bulle qui est envoyée par la
chaîne. Oui, c'est sûr. Non, mais c'est. Mais si on a la bulle, s'ils ont cette bulle-là, c'est parce qu'ils en ont besoin. Alors, si vous voulez, il y a une Gemara qui dit que il y a quelqu'un qui a... Il y a un homme qui avait des enfants et qui a perdu sa femme. Et là, il avait des nourrissons et il a réussi à les allaiter. Et dans la Gemara, il y a deux lectures de la chose. Une lecture qui dit que c'est bien, une lecture qui dit que c'est affreux. Donc il y a quand même une lecture qui dit qu'on l'a fait un miracle. Mais c'est affreux d'avoir dû changer l'ordre du monde. Et bien, c'est pas. Pourtant, il lui a fait un miracle. C'est pas. Ok. Et c'est possible que de devoir en passer par un miracle, c'est peut-être pas idéal. Ça veut dire que ça dénote qu'Hachem te prend en charge, etc. Mais peut-être que ça montre aussi qu'ils sont pas capables de. Bon, on les a fait vivre de façon. Finalement. D'abord, qu'ils soient restés 40 ans dans le désert, enfin 38 ans de plus dans le désert, 40 ans dans le désert, ce n'était pas prévu au programme, c'est leur faute. Bon, c'est parce qu'ils ont fait le Hegel qu'ils sont restés si longtemps. Et même à la limite, qu'ils aient dû prendre le chemin par les Plishtim plutôt que. Enfin, pas passer par les Plishtim plutôt. Ils n'ont pas pris le chemin le plus court. Non plus, parce qu'Hachem pensait, ben, il n'est pas sûr qu'il tiendrait le coup. Peut-être qu'ils vont rebrousser chemin. quelque part, c'est toujours leur faiblesse qui fait que on leur fait des miracles, etc., tout ce que vous voulez, mais d'un autre côté, ça dénote une certaine faiblesse. Alors c'est extraordinaire qu'Hachem s'occupe ça fortifie de savoir Hachem s'occupe de moi. Très bien. Mais d'un autre côté, quelque part, c'est comme si, voilà, ben, d'une certaine manière, je n'arrive pas. Il faudrait être autonome, quoi. Autonome, du lot que Hachem nous donne tout, mais ce ne soit pas si évident qu'on a besoin d'autre chose. C'est sûr que quand on voit cette histoire qu'ils ne peuvent pas faire la Mila parce qu'il n'y a pas les UV du soleil, quoi. Hachem ne pouvait pas faire en sorte que ça guérisse quand même. Non, il ne mérite pas. Il existe un vent qui ne souffle pas à ce moment-là dans la journée. Ici, il soufflait, il aurait dispersé les Anekabod et le soleil aurait pu passer. Mais d'un autre côté, ils avaient besoin d'un Anekabod, ils ne pouvaient pas vivre sans ça. Ils avaient besoin de.
Ça ne correspond pas à ce que vous avez dit la dernière fois sur la confiance. C'est-à-dire de passer par cette étape de confiance
qu'on connaît de l'épargne. Oui, ils doivent. D'un autre côté, justement, ils sont obligés d'en passer par là.
Voilà.
Alors, on aurait. Vous voyez, toute cette histoire de la construction de la confiance par ce biais-là, c'est toujours des situations où comment peut-être le dire de cette manière-là, c'est comme si, au fond, on avait un minimum, on ne sait pas très bien d'où il vient, de confiance, puis ensuite il faut le construire, il faut l'amplifier. Et l'amplification, elle se fait un peu artificiellement, c'est-à-dire je vois certaines choses et je décide de les interpréter comme ça, comme fortifiant ma confiance, comme m'aidant et fortifiant ma confiance. Très souvent, c'est des situations où bon, on pourrait les regarder négativement, ces situations. Non, mais je décide de ne voir dans cet aspect que ce qui construit ma émouna. Mais on peut aussi le voir, et la Gemara, elle ne se prive pas, puisqu'elle. Si on considère que de ne pas pouvoir faire la Mila, finalement, c'est quand même une grosse affaire de vivre 40 ans, enfin 40 ans, que tout le clan d'Israël, pendant tous ceux qui naissent, dans toute la nouvelle génération, aura vécu les premières années, chacun quand ils sont nés, mais les premières années sans Mila. Et eux, à ce moment-là, quand ils sont dans le désert, mais ils ont la mitzvah de Mila. C'est pas comme quelqu'un qui n'aurait pas la mitzvah de Mila. Avraham Avinu, avant qu'il fasse la Mila, il n'avait pas la mitzvah, donc pas de raison de le faire. C'est pas un manque. Quand tu n'es pas la mitzvah, je n'ai pas la mitzvah. Mais tu as la mitzvah et tu ne peux pas le faire. Alors, quand on est empêché de faire une mitzvah, ça s'appelle ones. Et la règle, c'est ones rachmana patre. C'est-à-dire, si quelqu'un est anus, la Torah ne lui tient pas rigueur de cela. Mais c'est pas comme s'il l'avait fait. Il ne l'a quand même pas fait. On ne lui tient pas rigueur de la chose, mais c'est pas. Si vous voulez, quand vous donnez une excuse parce que vous ne vous êtes pas occupé de quelque chose dont vous auriez dû vous occuper et qu'on accepte votre excuse, ok, très bien, je ne t'en veux pas. Je tiens pas. Mais la chose n'a pas été faite. Quelqu'un avait besoin de quelque chose, vous ne lui avez pas donné. D'accord, vous avez une excellente excuse. On ne peut pas vous dire rigueur, c'est un cas de force majeure. Ok, mais est-ce qu'il a eu la chose dont il a besoin? Non. Il n'a pas eu. Donc, si vous voulez, c'est pas. C'est comme ça. C'est assez honnête. Voilà, ils étaient anoussim. Pourquoi ils sont anoussim? Parce qu'ils ont besoin d'un anekavot. Ah, ils ont dit l'anekavot, c'est bisrout. Oui, c'est bisrout. Il y avait un sroute pour les avoir. Il faut un sroute, parce que sinon, ils auraient été perdus complètement. Mais. Il y a toujours deux aspects des choses. Il y a aussi un aspect, c'est extraordinaire, ça montre que Hachem s'occupe de nous, et d'un autre côté, c'est un défaut. Ça aurait été mieux que j'en ai pas besoin, que je me débrouille tout seul.
Est-ce qu'on peut dire de la même manière que si Hachem est intervenu sur la fameuse étoile, c'est pour qu'elle n'ait pas une mauvaise influence?
Non, là-bas, justement, la raison pour laquelle je vous ai apporté ça, après que vous l'ayez cité, mais c'est parce que là-bas, ça apparaît comme Hachem a voulu éviter un Khilul Hachem. Moshe Rabbeinu a joué le Khilul Hachem. Moshe Rabbeinu a dit tu peux pas faire ça. Parce que sinon les Égyptiens diront voilà, on avait bien raison de dire que c'est un sale coup qu'Hachem est en train de leur faire, il les amène crever dans le désert. Donc il y a un Khilul Hachem. Donc Hachem ne peut pas tolérer ce Khilul Hachem. Et ça, c'est le rôle des hommes. De dire à Hachem, ne fais pas comme ça parce que c'est un Khilul Hachem. C'est pas qu'il ne serait pas tout seul, mais c'est notre rôle. Le rôle des hommes. Et c'est pour ça que Moshe Rabbeinu, il a appuyé là où ça fait mal, en quelque sorte, pour qu'Hachem soit obligé, en quelque sorte, de faire quelque chose. Donc, en fait, si on résume, Yaakov lui demande de lui donner, dis-moi ton nom, et le Midrash, il dit, oui, mais les noms se fait pour changer. Un nom, à un certain niveau, c'est pas définitif, c'est un programme ou c'est quelque chose de ce genre-là, et donc c'est fait pour changer. Donc à la limite, il n'est pas, ça n'a pas tellement de sens de demander son nom. Ça ne donnera jamais que le nom qu'il a maintenant, et ça ne dira rien sur ce qui va se passer demain. Et il lui dit d'ailleurs, alors c'est peut-être ça le, je ne sais pas pourquoi c'est marqué, « Eno yodea, ezechem animit halef », peut-être ça veut quand même dire, je ne sais pas, peut-être « Eno yadua », on ne sait pas. On ne sait pas combien de comment le nom va changer, c'est-à-dire je ne sais pas quelle sera ma nouvelle tâche. Ce qui est intéressant, c'est que ce malach ici, dans ce texte, il est appelé malach Hachem. Bon, il est le malach d'Hachem. On a dit plus haut que, d'après certains, c'est l'ange des saves. Il s'appelle néanmoins malach Hachem. Alors, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, même s'il est l'ange d'Esav, c'est Hachem qui l'a désigné comme tel. Hachem lui a désigné comme tâche, tu représentes Esav dans le monde d'en haut. Tu es ce qui va guider Esav, donc ton travail c'est de t'opposer à Yaakov. Et il dit, bon, c'est terminé. Je devais m'opposer à lui dans un certain laps de temps, c'est-à-dire la nuit. Et maintenant la nuit est terminée, laisse-moi partir. Et il lui dit, mais j'aurai un autre nom, ça ne sert à rien de me demander, j'aurai un autre nom. Donc, il ne lui fait pas partie, c'est intéressant parce que c'est comme s'il disait que le malach des saves, il aura aussi un autre nom par la suite. Parce qu'il a fini, donc demain il va avoir un autre nom. Ça voudrait dire que le malach des saves n'existe plus comme tel. Pourquoi ? Parce que les autres noms que les malachim ont, c'est malachim qui change. Lui, c'est un malach, quand il est envoyé quelque chose qui touche du feu, ben dans son nom, il y a le feu, ou bien il y a l'eau, etc. Là, lui, disons que c'était le malach des saves. Si tu dis qu'il ne va pas garder son nom des saves, de malach des saves, il est un malach d'Hachem, donc il avait une tâche qui consistait à jouer le rôle du malach des saves. Terminé. Et il dit, demain, j'en aurai un autre. Il dit, je ne sais pas quel nom on va me donner, mais il ne dit pas, je ne suis pas sûr de vivre, etc. Mais il se présente comme un malard qui va changer lui aussi de nom.
C'est parce qu'on dit sur le fait qu'Ésaü, après, servira Jacob.
Alors, Est-ce que c'est ça? Est-ce que lui, quand il parle, justement, le problème, c'est comme ça. C'est, enfin, tel que je l'entends. C'est, est-ce que je dis que quand il parle, étant donné que la lutte qu'il a faite, c'est une lutte qui représente la lutte... Enfin, cette lutte-là, elle représente tout le Olam Hazeh, toute l'histoire. Et à la fin de l'histoire, Yaakov a gagné. Alors, effectivement, est-ce que... Je ne sais pas quel nom j'aurai maintenant, puisque toi tu as gagné, parce qu'il se projette en tant que malach de la fin de l'histoire, ou bien alors il dit, ou bien il est le malach d'Esav, et il dit je ne sais pas quel nom j'aurai, parce que Esav lui-même, dans l'histoire, il prend toute une suite de noms. Et donc le malach d'Esav lui aussi, quand il dit j'aurai un autre nom, je serai toujours le malach d'Esav. D'accord? Mais Esav ayant un autre nom, moi aussi j'aurai un autre nom. Je serai le malach de ce qui va représenter Esav, c'est-à-dire je serai le malach de Rome ou le malach de je ne sais pas, ou de la chrétienté, ou bien je ne sais pas de quoi, quel est le nouveau, quels sont les différents noms d'Esav, donc du malach d'Esav. Les deux possibilités, ou bien on dit comme dit Frédéric que ça correspond à la fin de l'histoire, et donc il aura un autre nom parce que tout en étant Esav, mais maintenant, il sera au service de Yaakov. Donc, ce serait une autre fonction. Mais il serait toujours le malard d'Esav, mais dans une autre, dans un autre rôle, en fait.
Et ça sous-entend que Esav n'est pas que Esav. Ça veut
dire bien sûr.
Il est lui-même une fonction qui va se démultiplier.
Oui, alors c'est ça, notre histoire, ce qu'on a dit jusqu'à présent, c'est, ce que je voulais dire ici aussi, c'est que Esav, il a plusieurs avatars. Je ne sais pas si c'est juste de dire avatar, mais il a plusieurs... plusieurs noms, mais donc il a, comme on voit dans la Gemara, Esav c'est Rome, et après Rome, après l'Empire romain, Esav n'a pas disparu. La question qu'on peut poser, Esav aujourd'hui c'est qui?
The United States of America.
C'est une voix qui est tombée du ciel. Est-ce que c'est Yaakov ou bien c'est Essa ou c'est Israël ou bien c'est Herschel ou... On a le choix. C'est pas toi, c'est l'autre. Bien. Alors effectivement, certains ont dit pendant un certain temps que c'était la chrétienté. Ensuite, je sais pas, différents avatars, ensuite éventuellement le communisme. Et peut-être aujourd'hui, certains disent effectivement aujourd'hui c'est l'Amérique.
Mais quand vous dites malheur d'Hachem, d'une manière.
C'est écrit malheur d'Hachem.
Oui, mais je veux dire, tout malheur est un malheur d'Hachem.
Oui, mais jusqu'alors, on ne le présente pas obligatoirement comme un malheur d'Hachem. Ici, justement, il est présenté dans ce texte là, comme malheur d'Hachem.
Qu'est-ce que j'ai lui confère de particulier?
Non, c'est-à-dire qu'on oublie un peu qu'il est malard. Il n'est pas présenté comme le malard de Esav. Il est au-dessus. C'est un malard Hachem qui avait comme rôle de jouer le rôle de malard d'Esav. Alors maintenant, la question c'est, il dit j'aurai d'autres noms plus tard. Alors, tu auras d'autres noms toujours en tant que malard d'Esav, ou bien est-ce que tu auras un autre nom parce que le malard d'Esav, il va être au service de Yaakov à la fin des temps, puisqu'il va reconnaître Yaakov. Non, mais je
la,
pas question.
Le malard, en fait, il n'a aucune personnalité, donc il n'a pas d'ego derrière.
Non. Il est seulement, il est la parole d'Hachem.
Oui, mais justement, qu'est-ce que c'est un malard? Et ça, si ce n'est, puisqu'un malard, c'est un lien entre X et Hachem.
Non, c'est le malard qui est en charge de guider.
Oui, c'est ça, voilà, qui est affecté à.
Oui, il est affecté, ça veut dire. C'est lui qui règle les relations entre Hachem et Esav.
Si on dit c'est le malheur d'Esav et qu'ensuite il a eu différents noms pour essayer d'identifier Rome, la chrétienté. Mais là où nous sommes, il reconnaît que Yaakov l'a vaincu.
Oui.
Or, suite de l'histoire. On peut dire que Rome, c'est le contraire.
Voilà. Non, non, mais c'est, quand il reconnaît que Jacob l'a vaincu, mais cette victoire, c'est la victoire ultime. On ne sait rien de ce qui se passe entre-temps. La lutte, elle était, c'est une lutte ultime. Que finalement, si vous voulez, c'est une espèce de garantie que l'histoire finira bien, quoi.
Mais
c'est comme ça que Razal a entendu cette pourquoi cette lutte avec le Malar, pourquoi il a une lutte avec le Malar plutôt qu'avec Essav lui-même, parce qu'il lutte avec le principe même d'Essav. Il dit, tu as vaincu le principe même des Malachim, c'est-à-dire tu es un Malar supérieur aux autres Malachim, toi Yaakov. Donc ultimement tu gagnes, mais d'ici là non, je suis pas sûr. Et ça, on va dire que c'est bien ce qui va se passer, c'est que peut-être que puisqu'il avait gagné, si Jacob l'avait laissé partir, peut-être que voilà, c'était, tout serait bien. Mais le problème, c'est que Jacob, il va continuer de se... Il va le retenir. Et du coup, il va lui déboîter la hanche, ou il va le... Et donc, il va le faire boiter dans l'histoire.
Vous avez dit qu'il est appelé Malach Hashem, mais dans le Pasuk de Shoftim, avec l'histoire de Shemshan, mais dans le Parashat Vayishlach, à aucun moment, il y a un nouveau Malach qui est relève. Je viens de vérifier là.
Oui, justement. Non, il n'est pas marqué que c'est un Malach, des fois.
C'est notre histoire. Enfin, le Malach Hashem, c'est...
Oui, mais le, justement, mais il lui dit...
On a pas été chez Alishmi, mais ce n'est pas
oui.
Toute autre histoire.
Oui, on veut montrer que... Mais c'est lui, il y a une continuité. C'est pas... Lamazé Tishal Lishmi, il veut Oupeli. D'accord ? Il lui demande ça, on fait comme si c'était la réponse que le Malach a donnée à Yaakov Avinu.
Oui, mais c'est pas forcément le même Malach. Je comprends que le Malach ramène ça juste comme preuve du fait que le Malach change de nom.
C'est juste. Mais lui aussi, il a changé de nom. Et pourquoi il ne lui répond pas ? Il répond, on voit bien, le Midrash, il dit, pourquoi tu me demandes mon nom, j'ignore en quel nom je serai changé. Ce Midrash-là vient répondre à la question de Yaakov, donne-moi ton nom. Il répond, mais je peux pas te donner de... Pourquoi tu me poses, mais tu me demandes qui je suis, j'ai pas de nom. Parce que là-bas, c'est marqué que c'est là-bas qu'il lui dit explicitement au Penny.
Ça veut dire que l'ange de Shimshon, c'est un ange de...
Non, mais je ne sais pas si le Midrash veut dire que c'est toujours le même ange, ça serait possible, mais je n'ai pas réfléchi à ça. Par contre, les noms des anges sont par définition au Penny. Les noms des anges sont des noms instables,
ouais.
Comme les étoiles. Alors il apporte une preuve, tu vois bien, là-bas c'est dit, il l'a dit explicitement qu'il était Pélé, son nom. Mais on l'amène ici pour, comme réponse à la question de... Parce qu'effectivement, même le malheur d'Essav, c'est aussi un malheur d'Hachem, évidemment.
Oui, j'allais dire, Hachem, il a tout voulu, même Essav.
Bien sûr, oui. Hachem a créé le mal.
Oui. Voilà. Oui, d'ailleurs, en fait, l'histoire, si on fait une synthèse, c'est on nous assure ici que le bien, en définitive,
triomphera.
Hein. Voilà. Quand, bon,
triomphera. Ce qui est loin de... Il y a une question. Le Rambam y compte le Mashiach comme un Icar, un des 13 principes fondamentaux. Et le Khatam Sofer dit, je ne comprends pas pourquoi c'est considéré comme un Icar. Il dit, qu'est-ce que c'est un Icar? C'est un pilier fondamental. C'est fondamental. Qu'est-ce qui est fondamental? C'est fondamental si, à supposer que tu l'enlèves, l'édifice s'effondre. S'il n'y a plus d'Emouna Bachem, l'Emouna, c'est un point fondamental. Etc. Mais il dit, le Mashiach, pas Mashiach, ça s'effondrerait pas. Il dit, supposons, face de Shalom, que les Bnei Israël fautent en permanence, infiniment. Ben, il n'y aura jamais de Mashiach. Et puis quoi, on va être dispensé de faire la Torah? On n'est pas dispensé d'obéir à la Torah? Tam Sofer.
Mais ça fait partie des questions. Le Prince de Shabbat a dit que quand un homme il arrive au souvenir de ses lettres, quand il demande, c'est vital le choix. Visiblement, c'est quelque chose de fondamental.
Mais Tam Sofer aussi, il savait que.
La dernière tchouva de Khatam Sofer Yeredea. Il dit, j'ai bien reçu donc ta lettre et tu m'interroges sur la discussion. Il existe une discussion entre le Rambam qui dit qu'il y a 13 Ikarim et le Rav Albo qui lui pensait qu'il n'y en avait que 3. Il pense qu'il n'y a que 3 principes fondamentaux. Lui, le Khatam Sofer, il y va carrément, il dit Le Yadat Ishum Nafkuta Kim Kriyat Shem Bilvad. Je ne vois aucune différence, on appelle ça 3, 13. Pour lui, il n'y a pas de Ikarim. Seulement, on l'appelle comme ça, mais ça ne change rien. Il dit Uldat Amekubalim Enka Nikar. Et pour les Mekoubalim, il y a encore moins de Ikar, puisque les Mekoubalim considèrent que Kol Kotsim Shel Torah est Mikarim. Tous les petits traits qu'il y a dans la Torah, tout ça est aussi fondamental. Ma Benzeleze, donc il n'y a aucune différence entre l'un et l'autre. Donc il ne sait pas pourquoi il se... Qu'est-ce que c'est que cette discussion entre le Rambam et Albo? C'est le Fatam Sofer qui parle. Il dit, mais... Il cite un de ses élèves. Qui ramenait une fila qui est mentionnée dans le Shlo. Dans laquelle il écrit donc c'est machma là que c'est on a une Kabbalah depuis Rav Tiv Yumi, c'est-à-dire c'est un des rabbinim de la Gemara, qu'il y a 13, parce qu'il y a une tfila dans laquelle il mentionne 13 Ikarim, 13 points fondamentaux. Mais il dit Ach I F Charli. Le shum ofan, d'aucune manière, je ne peux pas le ha'amin shetiyeg ou la teinu echad mi ikare adat. Le fait qu'il y ait une goula, donc il y aurait Mashiach, etc., je ne peux pas croire que ce soit un point fondamental de la Torah. Parce que, sheim yipol ha'yesod, parce que si ce principe-là tomberait, venait à tomber, tipol achoma khalila. Alors tout le mur tomberait. Chez Neymar, il y a, chas v'shalom chatoinu, gormim, si nos fautes, chas v'shalom, entraînaient, si garech otanu, girush olam, qu'Hachem nous chasse éternellement. C'est-à-dire, on termine, on revient, il n'y a pas de gueule là. Et ou que desvirele le Rabbi Akiva ba'aseret ha'shvatim shem nidachim leolam, c'est ce que pense Rabbi Akiva des 10 tribus. Il y a une discussion pour savoir si on va récupérer à la fin des temps les 10 tribus ou pas. Rabbi Akiva dit qu'ils sont perdus, définitivement perdus. Donc il dit à supposer qu'il nous arrive ce qui est arrivé aux 10 tribus, amipnei ze rasha'im hem lifrok ol malchut shamayim ol leshanot kutso shel yud. Afilou midivrei rabbanan chalila. Anachnu lo na'avod Hashem le'echol pri ha'aretz ve'lisboa mituva la'asot retzoncha elokei chafatzti ve'al kol panim ve'al kol ofan avdei Hashem anachnu ya'aseh imanu kirtzono ve'chefzo en ze ikav ve'lo yesod livnot alav shum binyan. Il dit, nous on est Avdei Hashem, il fait ce qu'il veut avec nous. On n'a rien à. On ne peut rien construire sur la garantie qu'on va. On ne sait rien du tout. Sauf que, il dit, ce n'est pas un écart de la Torah, sauf qu'on a une promesse d'Elvim. On a une promesse d'Elvim, mais ce n'est pas un écart de la Torah. Arkivan che ikar yesod akol lehamin batorah ubanvim, vesham. Et là-bas, dans l'Envim, Nehemar Geulateinu, à Acharona, dans la Torah, le Parchat Nitzavim ou Parchat Azinu, Moshe Katav Rambam Sham, le Ramban, il écrit là-bas que ces deux parchiotes, elles parlent de la Geula, Ve'arbe Mizeh Bedivre Envim, et l'Envim en parle beaucoup, Zimken Mishem Pakpek, à la Geulot, Alaz, Arekofer Beikar, à Amanat à Torah Ve'envim. Il est kofer Beikar puisqu'il ne croit pas à ce qui est écrit dans la Torah. Mais ce n'est pas un Icar. Il ne faut pas dire que c'est un Icar.
C'est chiant.
De quoi?
Finalement, il considère que celui qui remet
un peu. Il est un coffer, mais comme il serait coffer sur autre chose. Si quelqu'un il est coffer Beikar parce qu'il dit que ce n'est pas marqué, je ne sais pas, Vassar Bechalav, ce n'est pas écrit dans la Torah. Il est aussi coffer Beikar. La Torah ne tombe pas à cause de ça. On a une obligation de croire ce qui est écrit dans la Torah. Alors je crois que ça arrivera, mais ce n'est pas un Icar. Pour lui, un Icar, ça veut dire que si tu enlèves ça, tout tombe. Mais si tu enlèves n'importe quoi, tout tombe. Comme les Mekoubalim. Donc il dit absolument aucune raison de. Pour lui, il est contre la notion de Icarim Bichlal. Bon, ça n'a pas de sens. Il dit c'est des mots.
Mais la notion de Icarim, j'avais compris, je me trompe. J'ai toujours compris qu'en fait, c'est une croyance que le Rambam, il a raconté. Le Bazar Echlal, c'est pas une croyance, c'est une histoire.
Là, lui aussi, il dit c'est mitzvah la mitzvah bateau. Hein. C'est pas une croyance. C'est mitzvah des mouna. C'est croire que ce qui est écrit dans la Torah est vrai.
Oui, mais c'est Bassam Bechalaf.
Mais c'est la même chose.
Qu'est-ce que dire c'est vrai?
C'est Bassam Bechalaf, c'est une réalité.
C'est pas un événement.
Quoi?
Oui, mais c'est pas un événement.
Qui dit qu'on doit, pourquoi tu donnes un statut spécial à l'événement? Toute sa véracité, sa force, elle vient de ce que c'est écrit dans la Torah. C'est tout.
C'est pas écrit explicitement dans la Torah.
Non, mais ça fait rien, ça sert pas d'important. Parce que les choses sont pas explicites ou explicites, ça change rien.
C'est Nevi'im qui ont fait.
Non, Ramban il dit que c'est écrit dans Parchat Nitzavi, mais à Azinu, dans les dernières parchat de la Torah. Le sens qu'il n'y en a pas. C'est la volonté de l'Hachem, point barre.
C'est
la volonté de l'Hachem, c'est point barre.
C'est d'amener l'humanité.
Ça, c'est votre interprétation, vous dira le Khatam Sofer. Il y a plein de choses qu'on ne comprend pas ce qu'Hachem veut. Il manque pas de choses où on ne comprend pas ce qu'Hachem veut. On ne comprend pas. C'est tellement plus facile de comprendre pourquoi il arrive au clan d'Israël tout ce qui lui arrive.
C'est pas plus facile.
C'est la ration d'Hachem, c'est la volonté d'Hachem. Je vous rapporte ça seulement parce que le Khatam Sofer, c'est une super autorité. C'est pas l'opinion de X, Y ou Z. Bien. C'est pas notre sujet. Un permis de. Vaizrach le Hashemesh. Littéralement, le soleil a lui pour lui. Il a brillé pour lui. Amar Rav Berechia. Ou le mi lo zakha shemesh. Et là, lo le rafoto, le refuato, voilà herim aura. Rabbi Echia, il s'interroge, il dit qu'est-ce que ça veut dire ça a brûlé pour lui, ça a brillé pour lui. Ça a brillé pour tout le monde. Le soleil brille pour tout le monde. Qu'est-ce que ça veut dire ça a brillé pour lui? Donc justement, c'est un peu ce qu'on avait dit précédemment. C'est-à-dire, il y a une étoile, elle peut avoir une fonction d'illumination. Elle peut avoir une fonction dans l'équilibre, dans la gravitation, si vous préférez. Et là, le soleil, d'après ce qu'on a vu, les UV du soleil sont nécessaires pour guérir la Mila. D'accord. Le soleil brille. Pour guérir quelqu'un. Donc pour lui, le soleil brillait pour le guérir. Pour les autres, il ne brillait que pour les illuminer. Pour lui aussi, il était. Mais lui, pour lui, il vivait le soleil qui brillait comme quelque chose de spécifique. Ça vient pour le guérir. C'est ça le Vaizrach Lo. Un shemesh.
Ben, c'est pas tout à fait faux parce que le soleil peut donner la vie et la mort selon la manière dont on se comporte avec lui.
Tout à fait. Mais lui, pour ce qu'il avait à. Il brilla, sa brille pour le guérir. Mais c'est vrai que bon, de même qu'il y a, jamais, les choses sont jamais que positives. On peut faire un mauvais usage de des bonnes choses. Alors encore, on veut juste voir ça encore. Ravuna, Meshem Ravacha Amar, Kachaita Hashemesh, Merape be Avinu Yaakov, ou Melahetet be Esav ou be Alufav. Amar lo Akadosh Baruch Hu, At Siman Lebanecha. Ma At, Hashemesh Merape Becha, ou Melahetet be Esav ou be Alufav, Kach Banecha, Te Hashemesh. מרפא בהן ומלהטת בעובדי כוכבים. מרפא בהן, parce que c'est marqué, וזרחה לכם ירא שמי, שמש צדקה ומרפא בכנפיה. מלהטת בעובדי כוכבים, c'est marqué, הנה היום בא בוער כתנור. Si le jour vient, ce sera brûlant comme dans un four. Donc pour les idolâtres. Donc là, on voit très bien que ça ajoute à ce qu'on avait vu avant. On a vu que les étoiles, elles ont des noms différents. Donc on a, elles ont des fonctions différentes. Mais maintenant, ce qu'on est en train de dire, c'est que le soleil, il a des fonctions différentes selon les gens. Pas seulement que le soleil a une fonction, puis éventuellement après une autre fonction, comme on a dit, c'est des étoiles, c'est peut-être vrai pour les autres étoiles aussi. D'accord? C'est que finalement, ce qu'on appelle fonctions différentes, etc., et ça dépend des gens. Ça dépend aussi de la façon dont nous le recevons. Donc effectivement, il dit, le soleil guérissait Yaakov et il brûlait Esav et ses princes. Et Hachem lui a dit, mais il en sera de même pour tes descendants. Le soleil les guérira et il brûlera et ça avec ses princes. Voilà, on va s'arrêter là, on reprendra ce petit morceau la prochaine fois, il m'entache.
Merci, bonsoir.
Bonsoir, Chabez. Ortier.
Je ne ferme pas tout de suite.